Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, mais cette semaine, nous allons voir un peu encore le livre de, comment je peux dire, d'Eugène Müller. Voilà, alors, je préciserai que Eugène Müller, il est né à Vernaison, près de Lyon, en 1826, et qu'il est décédé à Paris en novembre 1913. Alors, il est l'auteur d'une près d'une centaine d'ouvrages. Il est littérateur, homme de lettres, dessinateur d'étoffes, photographe, bibliothécaire à l'Arsenal de Paris, et il a écrit sous le pseudonyme de l'oncle Anselme, et il a été rédacteur en chef de la mosaïque du Musée des Familles et du Journal de la Jeunesse. Alors, il y a beaucoup de dessins dans ce livre. Alors, ils sont dus à Paul-Dominique Philippotto, né à Paris le 28 janvier 1846, et il est mort à Paris également en 1923. Puis, il y a aussi des dessins, alors des gravures sur bois de Charles Laplante. Il est né le 14 septembre 1837 et il est décédé à Paris en 1903. C'est un graveur sur bois, comme je disais, illustrateur français, un des principaux interprètes de Gustave Doré et des illustrateurs pour les éditions Hetzel, Hachette et donc de Alphonse Daudet, Herman Chatrian ou Émile Bayard. Voilà, alors nous avons vu la semaine dernière Doménil, le général Doménil qui a défendu Vincennes. Alors je préciserai que Doménil à Paris a une avenue, l'avenue Doménil, qui est très longue, peut-être une des plus longues de Paris, et qu'il partage avec aujourd'hui Félix Eboué. Et il y a même une station de métro, si mes souvenirs sont bons, Doménil, Félix Eboué. Voilà, et puis on a vu aussi Croce Spinelli, moins connu, originaire de Montbazillac. Il a été élève de l'école centrale et il meurt asphyxié le 15 avril 1975 avec Théodore Civelle lors d'une ascension à bord du Zénith, qui était un ballon libre. Après 4 heures de vol, contre laquelle seul Gaston Tissandier, le troisième passager, survivra. Voilà, alors donc, le ballon s'écrasa au lieu dit à Ciron dans l'Indre, où je me suis rendu d'ailleurs il y a quelques années. Il y a eu un monument au Père Lachaise qui est érigé pour ses victimes par souscription nationale. Et donc, il y a une rue Cossé Spinelli à Paris dans le 14e. Voilà, alors on va changer un tout petit peu de sujet. Et on va voir François de Salignac et la Montfenlon, qui est né au château de Fénelon en Seine-Mondane, entre Souillac et Sarlat, en 1651. Alors, il est destiné à la prêtrise, il suivra les cours de l'université de Cahors, puis de Paris au séminaire Saint-Sulpice. Et il est ordonné prêtre à Sarlat en 1677. Alors, indifférent, l'opposera Bossuet sur le quiétisme. Il sera désigné en qualité d'archevêque à Cambrai par Louis XIV, et Bossuet sera évêque de Meaux. L'ouvrage le plus connu de Fénelon est sans doute Télémaque, écrit pour son élève, le duc de Bourgogne, qui est mort assez jeune et qui aurait pu être roi de France. Le tombeau de Fénelon est à Cambrai, nous en reparlerons plus longuement. Du signe de Cambrai, évidemment, et de l'aigle de Meaux. En attendant, nous le retrouverons dans l'ouvrage d'Eugène Müller, La morale en action par l'histoire, et d'abord avec une citation. Et qui nous dit « J'aime mieux ma famille que moi-même, j'aime mieux ma patrie que ma famille, mais j'aime encore mieux le genre humain que ma patrie. » Les trois lignes de Fénelon disent mieux que toutes ces phrases, mieux que tous les discours, comment le philosophe et le chrétien doivent comprendre leur devoir d'affection envers leurs semblables. La vertu, avait dit longtemps auparavant saint Augustin, c'est l'ordre dans l'amour. Voilà, donc on va... Puis il y a aussi une citation très courte, « Le courage et la force des faibles ». Donc c'est de Fénelon. Alors ensuite, il apportera son soutien à l'armée des Flandres, qui est bien démunie dans l'année 1709. La France, qui soutenait alors une lutte terrible contre toute l'Europe, coalisée, eut encore à combattre contre la faim, la rigueur de l'hiver et la cherté excessive des blés. L'armée de Flandre se trouvait sans magasin et le soldat, par conséquent, sans subsistance. L'évêque de Cambrai fait de Londres un exemple de fournir volontairement des blés pour soutenir la guerre et faire vivre le soldat, et il le fit avec le désintéressement qui lui était habituel. « Je ne me résoudrai jamais, monsieur, écrivait-il à ce sujet au contrôleur général, de vous proposer aucun prix. Je vous abandonnerai mes blés, ordonnez ce qui vous plaira et tout sera bon. » Il ne se borna pas à ce sacrifice personnel. Il fit de plus comme seigneur de Cateau-Cambrésis une ordonnance qui, vu les besoins pressants des peuples et du soldat, lui parut nécessaire. Il enjoignit à tous les fermiers, censiers, etc., de faire battre leurs grains et de les porter dans un délai marqué au marché voisin en réservant seulement ce qui était indispensable pour leur nourriture. La perte de la bataille de Malpaquet mit le comble aux calamités de cette époque. La journée, cependant, fut glorieuse pour la France par le courage et la résolution que les troupes firent. Voir les soldats qui manquaient de pain depuis 3 jours jetèrent celui qui venait convenait de leur distribuer pour courir se battre. Le maréchal de Villers, qui commandait l'armée, était gravement blessé. Le maréchal de Boufflers, qui avait demandé et obtenu d'aller servir sous Villars, moins ancien de grade que lui, fut la retraite en si bon nombre qu'il ne laissa aux ennemis ni canons ni prisonniers. Voilà, alors ça, ce texte est tiré de l'abbé de Fénelon, qui a écrit l'abbé de Fénelon. Alors l'abbé de Fénelon était, je crois, son petit-neveu. Voilà. Alors, il y a Saint-Simon. Alors Saint-Simon, bien connu, duc de Saint-Simon. Alors voit ce que nous dit dans ce livre, La morale en action, par l'histoire d'Eugène Müller. Alors le duc de Saint-Simon, je reprends mon texte, qui n'était pas prodigue de louanges, a confirmé dans ses mémoires tout ce qui a été dit d'ailleurs de la conduite de Fénelon pendant cette désastreuse période. Nous citons le passage textuellement, le style de Saint-Simon et de ceux auxquels on ne peut rien changer et qui n'est pas toujours très facile à lire. Voilà. Alors, voilà ce que nous dit donc le duc de Saint-Simon de Fénelon. Sa maison ouverte et sa table de même avaient l'air de celle d'un gouverneur de Flandre, tout à la fois d'un palais vraiment épiscopal et toujours beaucoup de gens de guerre distingués, beaucoup d'officiers particuliers, sains, malades, blessés, logés chez lui, défrayés et servis comme s'il n'y en ait eu qu'un seul. Et lui, ordinairement présent aux consultations des médecins et des chirurgiens, il faisait d'ailleurs auprès des malades et des blessés les fonctions du pasteur le plus charitable. Et souvent, il allait exercer le même ministère dans les maisons et les hôpitaux où l'on avait dispersé les soldats et tout cela, sans oubli, sans petitesse et toujours prévenant, avec les mains ouvertes, une libéralité, bien entendu, une magnificence qui n'insultait point et qui ne versait sur les officiers et sur les soldats, qui embrassaient une vaste hospitalité et qui, pour la table, les meubles et les équipages, demeuraient dans les justes bornes de sa place. Également officier et modeste, secret dans les assistances qui pouvaient se cacher et qui étaient sans nombre, leste et délié sur les autres jusqu'à devenir obligé de ceux à qui il donnait et à persuader, jamais empressé, des compliments, mais d'une politesse qui embrassait tout, étant donné et étant toujours mesuré, proportionné, en sorte qu'il semblait à chacun qu'elle n'était que pour lui, avec cette précision dans laquelle il excellait singulièrement, aussi était-il adoré de tous. L'admiration et le dévouement pour lui étaient dans le cœur de tous les habitants des Pays-Bas, quels qu'ils fussent, et de toutes les dominations qui les partageaient et dont il était l'amour et la vénération. Alors donc, c'est extrait des mémoires du duc de Saint-Simon. Et puis l'abbé de Fénelon rajoute, Fénelon mangeait toujours seul, vivant de légumes par régime, disait-il, mais plutôt, il est permis de croire, par mortification. Donc on va continuer à voir un peu ce livre, donc La morale en action, par l'histoire d'Eugène Müller. Voilà, alors, il y a bien sûr notre personnage, on va voir un peu, bien sûr, Montaigne. Alors Montaigne, qu'on ne peut pas ignorer. Alors, voilà ce qu'on nous dit, nous croyons qu'il serait difficile de trouver, même dans les plus éloquents des moralistes anciens, une définition du noble sentiment de l'amitié aussi humainement complète que celle que nous a laissée le philosophe français Montaigne dans le chapitre de son livre où il parle de son ami défunt, La Boétie. ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, disait-il, en son vieux et pittoresque langage, nous hasardons à moderniser quelque peu en vue de ceux de nos jeunes lecteurs à qui les formes vénérables diction pourraient être insolites. Alors, comment je pourrais dire, Montaigne pensait quand même aux générations futures, ce qui était quand même très bien. Alors, il continue ainsi, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont que la contumance et familiarité nouées par quelque occasion ou commodité par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent en l'amitié dont je parle. Elles se mêlent, se confondent l'une et l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on se presse de me dire pourquoi j'aimais la Boétie, je sens que ça ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et en l'amitié dont je parle, l'un pouvait donner à l'autre, ce serait celui qui recevrait si obligeré son compagnon, car cherchant l'un et l'autre, avant toute chose, occasion de s'entrefaire du bien, celui qui en prête le motif est celui-là qui est le libéral, puisqu'il donne à son ami le contentement d'effectuer ce que son ami désire le plus. Voilà. Alors, bon, on va laisser un peu Montaigne de côté, on va continuer quand même à feuilleter ce livre. Alors, il y a le duc de Bourgogne, élève de Fénelon, commandant les Flandres, un officier qui connaissait mieux son métier que Georges de Lecours, se trouvant invité à la table du prince, et ceci sans que celui-ci en ait donné le signal. On l'avertit sa gaucherie et demanda pardon. « Monsieur, lui dit le duc de Bourgogne, nous ferons, si vous voulez bien, un compromis, je vous apprendrai la cour et vous m'apprendrez la guerre. » La guerre, c'est pas vraiment une obligation. Alors on va retrouver aussi un autre personnage, qui est le maréchal de Biron. Le maréchal de Biron avait pris par composition la ville de Saint-Jean-d'Angély. La garnison avait capitulé et à la condition de sortir avec armes et bagages. Le maréchal tenant que les termes de la convention fussent religieusement observés, conduisait lui-même les vaincus hors des murs, et l'on en vint à lui dire que quelques-uns de ces soldats-là, promis de la foi, juraient maltraiter ceux de la garnison qui étaient à l'arrière de la colonne. Aussitôt mettant l'épée à la main et leur courant dessus, « Lâche !» leur cria-t-il. « Il y a deux jours, vous n'osiez pas les regarder en face. Maintenant qu'ils se sont rendus, vous les attaquez honteusement. Mais je vous apprendrai à respecter le serment que j'ai fait. » Et non seulement plusieurs de ceux qui avaient ainsi manqué à l'honneur furent blessés par lui, mais encore il infligea aux autres les plus sévères punitions. Bon, on pourrait continuer longtemps. Alors, il y a bien sûr, on a déjà cité l'abbé de Fénelon, qui a écrit bien sûr sur son ancêtre célèbre. Voilà, alors on va retrouver un peu Montaigne. Mais écoutez, pour terminer, après le sentiment d'un philosophe grec, voici sur le même sujet le sentiment d'un philosophe français. Le naturel sanguinaire à l'endroit des bêtes témoigne une propension naturelle à la cruauté, dit Montaigne. Après que à Rome, on se fut apprivoisé au spectacle des combats d'animaux, on en vint aux hommes et aux gladiateurs. Et il y a un certain respect, un devoir d'humanité qui nous attache aux bêtes qui ont la vie et sentiment, et nous devons la justice aux hommes et la grâce et la bénignité aux autres créatures qui ne peuvent être capables. Il y a quelques obligations mutuelles entre elles et nous. Voilà ce que disait Montaigne sur les animaux. Mais quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je crois qu'il sera, j'espère, ensoleillé. Et donc, mais ma foi, à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.